11h passées de 1 minute sur Radio Campus Tours. Et oui, chers auditeurs, 1 minute de retard pour cette méridienne, car nous avons été aspirés dans un vortex spatio-temporel. Mais nous revoici, je dis nous puisque je suis en studio, avec Séverine Menu. Bonjour Séverine Menu.
Bonjour.
Alors Séverine Menu, vous êtes membre de l'équipe co-animation. Vous êtes co-animatrice, c'est le Vortex, faut que je remette mes idées dans l'ordre. Vous faites partie de l'équipe Expérience au TEDx de Tours, vous êtes co-animatrice de cette équipe et je crois que dans le civil, vous êtes aussi ingénieur dans une entreprise qui fait de l'aéronautique. Bonjour à vous et bienvenue dans cette méridienne. Alors tout d'abord, avant de parler de l'événement TEDx qui se tiendra le dimanche 4 juillet, peut-être voulez-vous nous expliquer c'est quoi le TEDx ?
Le TEDx est une émanation de l'organisation des conférences TED, qui sont des conférences américaines. Le TEDx, ça existe depuis 2009. C'est une organisation sous licence d'événements, de conférences, de sujets courts. Le format, c'est 18 minutes maximum. Il faut demander une licence pour pouvoir y accéder et faire ses conférences.
Alors ça vient d'où en fait ? C'est un produit d'importation ? Je pense que c'est pas né en France.
Non, TED, c'est une organisation américaine qui permet de... Enfin, ça veut dire technology... Entertainment Design, ça pose les différents sujets qui pourront être montrés sur scène. Et le TEDx, c'est l'émanation de ça, un peu partout dans le monde. Il peut y avoir aussi bien des TEDx sur tous les continents et également dans tous les types d'organisations. L'association comme la nôtre pour TEDx Tours, mais également dans des universités ou même dans d'autres lieux.
Mais voilà, alors qu'est-ce qui fait que ce format, en gros, si on résume, une personne sur scène qui s'adresse à d'autres, pourquoi ça marche ce format-là ? Pourquoi ça ?
Parce que ça permet de parler de sujets qui peuvent être complexes et de les rendre accessibles à tout le monde sur un temps qui est très court, moins de 18 minutes. Et donc, ça permet aux gens d'en comprendre le sujet assez facilement et d'en retirer une idée. Vraiment, chaque talk qu'on retrouvera sur YouTube ou sur la chaîne de TED, chaque talk est simplifié pour qu'une seule idée soit vraiment passée et que le spectateur reparte avec son idée.
Alors comment on opère ? Donc à la ville de Tours, veut monter un TEDx, mais j'imagine qu'il y a quand même des règles à suivre. N'importe qui ne peut pas dire tiens, je vais faire un TEDx dans mon salon. Donc comment ça marche ?
Déjà, c'est pas forcément la ville de Tours, c'est des indépendants dont Fabien Boutard, l'ancien président, qui est le créateur de TEDx Tours, qui décident de se créer en association et qui font une demande de licence à TED. Et ça demande d'avoir un cahier des charges assez particulier pour que finalement le rendu public, tout ce qu'on verra, toutes les vidéos qu'on verra sur Internet aient un certain cadre et qu'on voit toujours un peu... On sait qu'on regarde une vidéo TEDx quand on regarde une vidéo TEDx. Il y a le lieu, le fait que le speaker soit sur un rond rouge, le cadre et la façon de présenter son sujet avec vraiment une seule idée en moins de 15 minutes. On sait qu'on est sur une vidéo TEDx.
Alors il y a ce décorum, disons TEDx.
Ouais.
qui est imposé. Donc c'est-à-dire, il n'est pas question de dire on va mettre un rond orange, hein, faut que ce soit rouge. Et comment, comment dire, on veut faire passer une idée en 15 minutes. Déjà, ces idées, comment on les choisit, d'où elles viennent et comment on débroussaille, disons, une pensée pour que ça tienne en une idée en 15 minutes.
Dans l'association de Tours, on est une quarantaine et il y a une équipe qui s'appelle l'équipe speaker. Ils sont 5 personnes. Et c'est eux qui vont chercher les sujets dont ils ont vraiment envie de parler et tirer la pelote pour, à partir de ce sujet qu'ils ont vraiment envie d'évoquer, trouver la bonne personne qui sera capable d'en parler parce que cette personne a les compétences, les connaissances pour le faire. Et une fois que cette personne sera trouvée, charge à l'équipe de lui faire travailler et son texte et puis ensuite on fera venir un coach professionnel pour la partie orale et éloquence sur scène.
Alors ça veut dire ce choix d'un ou d'une d'ailleurs expert.
Ah bien sûr.
Expert, comment on les repère en fait, comment cette équipe les trouve, où est-ce qu'ils vont les chercher, est-ce qu'ils écoutent les médias nationaux, est-ce qu'ils vont à des conférences, comment?
Ouais, c'est un travail de fourmi, effectivement, en regardant les différents médias et internet et en recherchant et puis parfois par rebond parce qu'on trouve une personne qui nous intéresserait mais qui est pas disponible mais qui connaît une autre personne qui a peut-être un angle particulier sur le sujet ou voilà en tirant comme un enquêteur finalement en tirant l'enquête jusqu'au bout jusqu'à trouver la bonne personne et puis parmi les sujets qu'on souhaite évoquer parfois ça ne marche pas, on n'arrive pas à trouver le bon angle pour cette fois-là et ça sera pour la fois d'après.
Alors qu'est-ce qui fait l'expert en fait? À partir de quel moment l'équipe en charge se dit cette personne-là est légitime pour parler de ce sujet?
On essaye de s'attacher à ce que cette personne ait vraiment des connaissances et des compétences dans le sujet et que ce soit pas juste quelqu'un qui a un intérêt mais qui aimerait bien parler. Mais qui n'a pas forcément de compétences, de diplômes, mais pas seulement d'expérience dans ce sujet-là, qui n'est pas démontré ces sujets-là.
C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quand même une reconnaissance hors des membres du TEDx, bien sûr, et de la société civile.
Oui, c'est ça.
Voilà, donc, et ça veut dire que on parle d'experts, mais donc évidemment vous avez des chercheurs et chercheuses spécialistes dans un domaine, mais pas que.
Mais pas que, ouais, mais pas que.
Donc ça peut être qui ces speakers, si ce ne sont pas forcément que des chercheurs et chercheuses?
Ça peut être dans des personnes très très diverses. On a par exemple eu Maya Mazorette qui maintenant est connue parce qu'elle passe à la télé, mais Maya elle était journaliste en charge de la sexologie et voilà, elle est reconnue par tout le monde comme experte dans ce sujet-là.
Est-ce qu'il y a des sujets, alors je vais être un peu grossière, mais des sujets, disons, un peu casse-gueule, ou est-ce qu'il y a des choses que l'équipe s'interdit de dire, oula, ça va être compliqué, ou...
Alors, il y a des choses que la charte nous interdit, on n'a pas le droit de faire de prosélytisme, ni politique, ni religieux. Ça, c'est vraiment interdit. À TEDx Tours, on préfère ne pas avoir trop d'histoires de vie. On préfère avoir développé des sujets un peu plus techniques, un peu plus pointus, et entendre parler. Par exemple, l'année dernière, il y avait un sujet sur les vieux ou sur la fête. Ça peut être des sujets pointus aussi sur ces sujets qui sont pas du tout scientifiques. Mais en tout cas, c'est pas quelqu'un qui vient raconter comment il a bien réussi sa vie.
Oui, voilà, parce que c'est vrai qu'on peut dire aussi que dans les conférences TEDx, on peut avoir aussi, par exemple, des témoignages de personnes voilà, qui peuvent être obèses ou porteuses d'un autisme, par exemple. Et donc ça, c'est pas des sujets qui vous...
On n'est pas arrivé à ce sujet-là. En tout cas, il n'y a pas eu aujourd'hui ce genre de sujet qui soit ressorti.
Voilà. Donc voilà pour le choix des invités et des thématiques. Donc j'imagine que ça donne lieu à de longues discussions dans cette équipe, et tant mieux. Et sinon, je voudrais insister aussi sur le rendu d'un échange TEDx, c'est-à-dire voilà, peut-être que certains auditeurs qui n'ont pas encore pu assister à ces conférences, qui n'ont pas pu les voir peut-être parce qu'on retrouve tout sur YouTube, de dire bah, il y a quand même une ambiance... disons que c'est pas un cours magistral en amphi, même si c'est très bien, c'est les cours magistraux en amphi, disons que c'est pas le format, la façon de transmettre qui est choisie là.
Non, c'est vraiment pas ce format qui est choisi. Le format TEDx, c'est vraiment un format court qui permet de passer une idée bien précise. Et sortir avec cette idée. L'idée, c'est que dans une soirée, donc on fait des événements, on fait un gros événement dans l'année, et on parlera tout à l'heure de plus petits événements, mais dans le gros événement, en fait, on va avoir 7, 8, peut-être 10 personnes qui vont intervenir et qui vont parler de sujets très, très différents. Et c'est ça qui fait la richesse pour moi de TEDx, c'est la diversité de ces sujets. Ça dure moins de 15 minutes. À chaque fois, on part avec une idée en tête de ce qu'a voulu nous donner l'intervenant. Et donc, bah, à la soirée, on a une dizaine d'idées en tête qui ont voulu nous être passées dans les différents talks. Et c'est vraiment très enrichissant. Ça permet aussi d'agiter nos cerveaux pour augmenter la créativité de chacun, en fait.
Mais par contre, c'est vrai que dans l'idée, donc là, on a un panel d'idées qui sont proposées aux spectateurs. Mais par contre, les spectateurs ne peuvent pas répondre. Il n'y a pas d'échange après avec le speaker, parce que ça s'enchaîne.
Dans la soirée annuelle, non, il n'y a pas de possibilité de discussion, effectivement. C'est, on prend l'idée comme un cadeau et on part avec. Et puis, on est libre après d'aller chercher, se renseigner sur cette idée-là et d'en comprendre plus. C'est aussi une ouverture.
Alors, je voudrais qu'on écoute une archive liée au TEDx, parce que je trouve, TEDx Tour, parce que je trouve que ça dit aussi quelque chose de ce qu'est le TEDx, sur l'état d'esprit que peut être le TEDx. On se retrouve tout de suite après dans cette méridienne.
TED. 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 Et qu'est-ce que tu fais demain, TED? D'accord, mais qu'est-ce que tu fais, TED? D'accord, ok. TED. TED. Attends, il y a quand même un truc que j'ai pas compris, TED. TED, d'accord, mais où? Mais c'est le TED avec Bill Clinton? TED. Ou c'est le TED moins bien? X. Ah, c'est le TED moins bien. Et du coup, tu vas parler de quoi? TED X. Tour. Tu vas parler de TED dans TED. Ça n'a aucun sens.
C'est pas le TED, mais c'est pas grave, c'est sympa quand même. Y aura des gens qui disent des trucs et c'est ça qu'on aime.
Je sais pas si t'as regardé le programme TED.
Oui.
Et bah c'est marrant parce que
Tour.
Ouais, bah justement, c'est une édition
TED
dans la ville de Tours et en même temps il y a plein de gens de
Tours.
Ouais.
TED.
Il y a aussi Maya Mazoret, celle qui fait les chroniques
X.
Oui, tout à fait. Et puis
Tour.
Bon, faut dire que c'est pas non plus hyper prestigieux.
TED
X.
Tour.
Je veux dire, ils t'ont invité toi quand même. C'est pas niveau Bill Clinton.
C'est pas vrai TED, mais c'est pas grave, c'est sympa quand même.
Qui
disent des trucs et c'est ça qu'on aime.
TED Tour. TED Tour. Alors moi je vais devoir
TED
y aller.
Tour. TED
Mais
Tour.
Bonne chance.
TED.
Hein?
Tour.
TED Tour, TED Tour, TED Tour, TED. Ouh, putain, jamais il ferme sa gueule, lui.
De retour dans la Méridienne sur Radio Campus Tour. Alors Séverine Menu, c'est quoi ce qu'on vient d'entendre?
Ça c'est un super souvenir de 2019, de l'édition Quintessence. Nous avions invité David Castello-Lopez qui nous a fait la joie de faire cette création pour TEDx Tour. On s'est beaucoup amusé et c'était vraiment notre hymne pendant toute une année.
Alors c'est qui David Castello-Lopez? Peut-être qu'on peut préciser à nos auditeurs. Donc non, il n'était pas dans les speakers.
Non, il n'était pas dans les speakers. Il était là pour l'animation et
voilà, il fait des vidéos depuis quand ça existe. Voilà, vidéo très drôle où il essaie d'expliquer voilà depuis quand ça existe le surimi, les gens qui disent bonjour, hein, les ramasseurs de balles ou les montres suisses. Voilà, donc on invite nos auditeurs à aller regarder ces vidéos parce que elles sont assez amusantes. Et là, je pense que ça se rapproche aussi peut-être de l'esprit TEDx puisque l'idée c'est justement de détricoter une idée et de remonter aux origines d'une chose. Et c'est sur des formats courts aussi et humoristiques.
Et c'était vraiment un super moment avec lui. C'était une personne adorable et puis ben vous allez avoir cette musique là dans la tête toute la journée.
Et ben oui, tant pis pour vous. Et oui, donc c'est-à-dire aussi que dans les TEDx, donc il y a des speakers, il y a toute cette équipe bénévole dont vous nous avez parlé, mais il y a aussi d'autres invités. Donc par exemple, je sais pas si on peut dire que c'est un humoriste. Je voudrais pas le... Mais quand même un peu, hein, journaliste, humoriste, David Castello-Lopez. Mais il y a aussi des fois des artistes, des chanteurs, chanteuses.
Oui, on essaye que la soirée soit complète, que ce soit pas juste un moment de conférence, mais que ce soit un moment avec une expérience totale pour le public, des cinq sens. Donc on essaye voilà, d'apporter aussi des moments de respiration ou de l'humour ou des artistes. On a eu une danseuse, on a eu des musiciens, on a eu des artistes très divers.
Et justement, puisque vous parlez d'expérience, vous co-animez l'équipe expérience. Alors, c'est quoi l'équipe expérience?
L'équipe expérience, elle a pour but, pour l'événement annuel, de justement s'occuper de tout ce qui sera l'expérience du public. Donc, c'est aussi bien la billetterie, ça commence un peu par là, il faut d'abord acheter son billet, mais c'est aussi gérer tous les accès, les facilités pour les personnes peut-être à mobilité réduite ou avec des difficultés. C'est aussi s'occuper de trouver de la restauration. Généralement sur des événements longs, on propose un petit moment de divertissement gustatif et puis un peu de boisson. Donc l'équipe expérience, elle va gérer également tout ça.
À consommer avec modération, évidemment, hein, pour les, disons, les nectars alcoolisés. Et voilà, donc parlons peu, parlons bien. Il me semble qu'il y a un événement le 4 juillet de 15h à 19h à La Rose-Loire. Alors, de quoi s'agit-il?
Alors, l'équipe expérience, elle a aussi pour mission d'organiser ce qu'on appelle les TEDx Salons. Là, l'idée, c'est vraiment d'apporter à notre public des moments entre les gros événements annuels. Et des moments de plus petite taille qui vont nous permettre d'aborder des thématiques, une thématique choisie tout en étant plus proche du public.
Donc, c'est-à-dire?
Voilà, ça sera un événement d'une centaine de personnes, alors que au Grand Théâtre et sans restrictions sanitaires, on pouvait monter jusqu'à 800. Donc là, c'est vraiment un événement plus proche. Et puis, on a choisi une thématique bien particulière, un angle qu'on a voulu développer. On a choisi le thème de la Loire.
Alors, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va pouvoir voir, entendre, goûter sur cette thématique de la Loire ?
On aura quatre intervenants qui ont des origines très diverses et une approche du sujet très différente. Le but, c'est pas de parler de la Loire qu'on connaît, celle qu'on traverse tous les jours pour aller de Tournord à Tourcentre. Le but, c'est d'apporter un angle de vue un petit peu différent. Et là, l'angle qu'on a choisi, c'était plutôt son aspect sauvage, ses secrets de Loire. Donc, on a un intervenant qui s'appelle Martin Arnoux, qui est président du Fonds de la conservation des rivières sauvages, qui viendra nous parler justement de pourquoi cette Loire, elle est sauvage. Lui, il dit que le monde, ou en tout cas l'Europe, nous l'envie parce que c'est un des derniers grands fleuves presque sauvages, puisqu'il n'a que peu de barrages, peu de constructions l'empêchant d'évoluer à sa façon de fleuve. Ensuite, on aura Thierry Bouvet, qui est pêcheur de Loire. Et Thierry nous expliquera comment il a refait vivre une spécialité culinaire très ancienne qu'il appelle le garum. Et ce garum, on aura l'occasion de le goûter en fin de journée.
Et puis on a aussi un auteur et aventurier, je crois.
Oui, on a Corentin Leduc, qui est aventurier, éco-aventurier. Éco-aventurier parce qu'il construit lui-même ses canoës avec des matériaux qu'il trouve autour de chez lui pour la plupart. Et il viendra nous raconter comment, lors de certaines de ses expéditions, il a pu remonter ou descendre la Loire et comment il a vécu, lui. Il nous amènera à l'aventure pour nous dire comment il a vécu la Loire depuis sa fragile esquif. Et puis nous aurons également Sabine Grelich, qui est maître de conférence en écologie végétale et qui nous fera découvrir l'impact du végétal sur la physionomie de la Loire. J'en avais pas d'idée, en tout cas, avant de l'interviewer, comment les plantes peuvent aussi façonner la Loire et changer sa physionomie. Donc ça devrait être des sujets très intéressants et en tout cas ce sont tous des gens passionnés et passionnants qui ont vraiment envie de partager avec nous leurs petits secrets de Loire. Ça va vraiment être chouette.
Donc voilà, à partir de 15h04 Talk, donc du coup, on voit, comme vous l'avez expliqué, sur des thématiques très différentes autour de la Loire, et tout cela sera aussi orchestré par un maître de cérémonie, il me semble. Voilà.
Oui, et le maître de cérémonie, c'est Lucas Chopin, qui est journaliste à TV Tours, qui nous fait l'honneur de bien vouloir animer ces interventions. Donc nous ouvrirons nos portes à 14h30 au public et puis les conférences commenceront effectivement à 15h, mais avant ça, il y aura aussi quelques petites réjouissances.
Ah, est-ce qu'on peut en parler justement de ces réjouissances ? Parce que 14h30, ouverture des portes, 15h, les 4 talks. Et puis voilà, ensuite, il y a d'autres choses aussi. Vous avez prévu des ateliers aussi
Oui, à la suite des conférences, pour qu'il y ait plus de proximité et qu'on puisse mieux partager avec les différents intervenants et puis voir d'autres aspects de la Loire aussi, on a prévu quelques ateliers. Donc il y a un atelier photo par Jean-François Souchard qui nous fera l'honneur de sa présence. On a un atelier de sélection de vins, dégustation d'une sélection de vins par les membres de l'équipe TEDx Tour. Alors là, c'est sans prétention, mais juste envie de partager des goûts de Loire très très différents et nous faire découvrir d'autres vins que le Saint-Nicolas et le Vouvray. Et toujours avec modération. On pourra aussi avoir une exposition de maquettes et sur la batellerie par l'association des Vents de Galerne qui nous prête gentiment certaines de ces maquettes avec lesquelles, enfin, voilà, qu'on pourra découvrir. Et puis un atelier d'échange avec les intervenants, donc après leur présentation le public pourra aller les interroger sur les sujets qui les ont intéressés, intrigués, en savoir un petit peu plus. Donc ils auront l'occasion de le faire à ce moment-là, ce qui n'est pas le cas quand on fait la grande soirée, donc c'est plutôt une chance.
Voilà, et ensuite, ne nous arrêtons pas en si bon chemin, hein, puisque de 18h à 19h, vous avez encore une autre chose de prévu.
Bah oui, qui dit Loire dit guinguette, hein, on n'a pas pu s'en empêcher. Donc, effectivement, on aura une guinguette animée par les chants des bateliers des Vents de Galerne pour la musique, et puis qui nous permettra de déguster des produits de Loire, dont le garum qui nous aura été présenté précédemment.
Voilà. Peut-être qu'on peut dire un mot aussi sur le lieu, la Rose Loire, où auront lieu ces réjouissances.
Ben oui, on voulait un lieu près de la Loire, on voulait un lieu guinguette, et la Rose Loire nous a semblé vraiment comme une bonne idée. C'est une guinguette qui se tient deux fois par mois à la Riche. Et c'est une guinguette qui est adossée à un jardin potager qui utilise la terre, les sédiments de Loire pour faire pousser ses légumes. Donc on était complètement dans le thème. Et puis on partage aussi leurs valeurs puisque la Rose Loire promeut la consommation des produits de fabrication locale, les circuits courts, les circuits bio. Donc on était en plein dans les valeurs de l'équipe TEDx Tour.
Et comment s'appelle le monsieur qui détient la Rose Loire ?
Oui, il s'appelle Yolin Gauthier.
Voilà. Et peut-être qu'il y aura une visite de jardin ?
Oui, on va essayer parmi les ateliers d'aller faire une visite du potager pour que le public puisse se rendre compte aussi de ce lieu et des produits qu'on peut obtenir grâce à la Loire.
D'ailleurs, il me semble, pour préciser l'endroit, que c'est là où il y a les jardins ouvriers à la Riche, c'est ça ? Où il y a tous les petits jardins. Là, je pense que c'est dans ce coin-là. Donc, ça veut dire qu'on peut rallier l'endroit à vélo.
Oui, depuis, tout à fait. Tout à fait, c'est à 10 minutes à vélo en suivant les bords de Loire. Donc, c'est possible, n'hésitez pas de venir nous rejoindre à vélo.
Voilà, et alors je pense qu'on peut faire une pause musicale dans cette méridienne, et cette fois-ci, c'est votre choix musical, Séverine Menu. Qu'est-ce que vous aimeriez nous faire écouter ?
J'aimerais bien Ben Mazué avec Gaffe aux autres, et c'est une spéciale dédicace pour Léa et Marie, qui aiment beaucoup ce chanteur-là, et... Moi aussi, donc merci de le passer ce morceau.
Alors écoutons Gaffe aux autres, Ben Mazué, dans la Méridienne. Vous écoutez Radio Campus Tour.
Hey, moi de t'entendre rire, ça me suffit. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. J'ai pas trouvé d'autre raison pour la vie. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Je rêve, je rêve, je rêve, je plaide coupable. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je suis détestable. Je sème, je sème, je sème tout ce que je gagne. Je saigne, je saigne, je saigne, car je sais le mal. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres.
Le temps qu'il reste à nous aimer.
Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres.
Hey. pas toujours été de la partie. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Tu écris notre histoire et moi je fuis. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Je rêve, je rêve, je rêve, je plaide coupable, je lève mon verre. Si tu m'aimes, tu comprendras que j'emmène ta peine. Même quand je m'évade, je saigne, je saigne, je saigne, car je sais le mal. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres.
Le temps qu'il reste à nous aimer.
Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres.
Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux? Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux?
Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux? Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux?
Que nos caresses en mêlent soient notre essence. Que nos ivresses soient le fruit de réjouissance. Que la tendresse soit toujours placée devant ce temps qui reste à nous aimer.
Je veux que nos caresses en mêlent soient notre essence. Que nos ivresses soient le fruit de réjouissance. Que la tendresse soit toujours placée devant ce temps qui reste à nous aimer. Je veux que nos caresses en mêlent soient notre essence. Que nos ivresses soient le fruit de réjouissance. Que la tendresse soit toujours placée devant ce temps qui reste.
Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres.
Le temps qu'il reste à nous aimer.
Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Le temps qu'il reste à nous aimer. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres.
Le temps qu'il reste à nous aimer.
Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres.
Ben Mazoué, gaffe aux autres sur Radio Campus Tour. Vous écoutez toujours La Méridienne. Avec moi en studio, Séverine Menu. Vous êtes co-animatrice de l'équipe Expérience au TEDx Tour. Alors, nous avons parlé de cet événement qui se tiendra le 4 juillet 2021 de 15h à 19h. Peut-être voulez-vous nous résumer ce qu'il va se passer pour nos auditeurs qui prendraient l'émission en cours de route.
Oui, donc ce sera un événement sur la thématique de la Loire. La Loire avec ses petits secrets, la Loire dans son aspect un peu sauvage. On aura 4 intervenants passionnés qui viendront nous parler aussi bien de biodiversité, d'aventure, de pêche et de produits de Loire et aussi d'infrastructures. Ça va vraiment être un moment très très convivial, très sympathique, dans lequel on pourra découvrir aussi des champs de Loire, on pourra découvrir aussi des sélections de vins de Loire, on pourra profiter du lieu, puisque ça se passe à la Rose Loire, à La Riche, dans une guinguette tout à fait conviviale qui est tenue par Yolin Gauthier. On partagera une petite heure de conférence, c'est ouvert à tous. Pas de souci si vos enfants veulent nous rejoindre. Vous trouverez toutes les informations sur le site tedxtour.com et sur la page particulièrement du Salon La Loire. Le tarif pour nous rejoindre, c'est 10 euros pour une après-midi complète avec des ateliers, des conférences, une dégustation. 10 euros plus 99 centimes de frais de gestion, ça c'est une obligation. Et puis voilà, il reste encore quelques places, plus trop, mais on vous attend avec impatience pour un dimanche après-midi en bord de Loire.
Merci Séverine Menu. Et alors, peut-être que votre équipe commence déjà à réfléchir au grand TEDx.
Ah ben bien sûr, dans la deuxième partie de l'année, on va faire effectivement notre événement annuel sur lequel on est déjà en train de travailler. L'équipe speaker dont on parlait tout à l'heure travaille déjà d'arrache-pied pour trouver et préparer les différents intervenants.
Voilà, et donc c'est peine perdue, hein. Nous n'arriverons pas à vous soutirer le thème de cette future édition, hein, puisque de toute façon il n'est révélé que... peu de temps avant. Mais...
Ah ça, effectivement, on n'en parlera pas.
Merci. Et si jamais, parmi nos auditeurs, certains aimeraient rejoindre l'équipe TEDx, est-ce que c'est possible et comment est-ce qu'il faut faire ?
Alors, l'équipe TEDx Tour organise des recrutements. On est un peu décalé dans nos recrutements. Cette année, on l'a fait en début d'année, en début janvier. On peut effectivement rejoindre l'équipe TEDx Tour. Il y a quelques demandes, donc on essaye de sélectionner les gens qui vont nous rejoindre, notamment en fonction de leur disponibilité. Parce que c'est quand même une organisation qui demande pas mal de temps et d'investissement pour qu'on fasse des événements qui soient vraiment, vraiment sympas. Donc, un de nos critères principaux, c'est l'envie et la disponibilité, l'engagement que pourront avoir les candidats.
Voilà, bons entendeurs. Merci à vous d'être venus dans cette méridienne pour nous parler de cet événement TEDx autour de la Loire qui se tiendra le 4 juillet à La Rose-Loire. Je vous propose à présent d'écouter un épisode du podcast Le Temps d'un Café, produit par les étudiants du Master Culture et Patrimoine de l'Alimentation de l'Université de Tours. Et vous allez voir qu'on ne s'éloigne pas du thème de la Loire. Donc on se retrouve tout de suite après sur Radio Campus Tours.
Itinéraire offert par Garoum le pouce, le condiment des champions.
Bienvenue à toutes et à tous dans notre podcast Le Temps d'un Café. Vous venez d'écouter un extrait d'Astérix et la Transitalique, réalisé par Ferry Conrad et sorti en 2017, dans lequel le Garoum est présenté à la façon d'un célèbre soda, sponsor de la compétition à laquelle participe notre héros gaulois. Aujourd'hui, on vous propose une réflexion sur ce mystérieux condiment, argumenté par les réflexions de Thierry Bouvet, pêcheur à Mont-Louis-sur-Loire, et Yvon Dréano, archéo-zoologue à Saint-Avertin. Bonjour Thierry Bouvet, vous êtes pêcheur et producteur de garum à Mont-Louis-sur-Loire. Alors, c'est quoi le garum pour vous ?
C'est une sauce lacto-fermentée de poisson. Et pour moi, c'est... Bon, il se trouve que mon père était en Indochine et qu'il en est revenu avec le souvenir de cette sauce, des odeurs et de l'intelligence de ce que c'était. Ça permettait aux villageois de manger des choses qui avaient du goût, qui avaient du parfum. Et ce que j'en ai retenu, c'était l'intelligence du mets, les saveurs telles que je pouvais les imaginer avec les couleurs dont il parlait, plus que par le goût. Donc, c'est beaucoup de correspondance entre des images, des sentiments, des saveurs et un procédé. Après, ça n'empêche pas que ce soit sophistiqué. Mais pour moi, il y a une profondeur de civilisation là-dedans.
Pourquoi avez-vous fait ce choix du garum ?
J'ai été séduit par la Loire. J'y suis retourné à un moment de ma vie où je me disais, mais qu'est-ce que je fais ? Et à ce titre-là, j'ai interviewé Philippe Boineau. Et puis j'ai pris plaisir à fréquenter le lieu, son activité, qui ne m'était pas totalement étrangère, dans le sens où je suis géographe de formation et j'ai fait mes études sur les pêches maritimes en Tunisie. Ce qui était important pour moi, c'était d'abord de pêcher de la ressource abondante, à savoir ici en Loire-Moyenne, le silure et le mulet. Et j'avais ce souci de faire en sorte qu'une activité puisse se poursuivre dans le respect de produits de qualité, de ressources disponibles pour ceux qui vont venir et pour lesquels on exploite tout.
De quelle façon aviez-vous prévu votre commercialisation du coup ?
Alors, l'idée, c'était de s'appuyer sur de la vente directe avec les AMAP. Dès lors que j'ai émis l'idée de pêcher en Loire, j'ai eu des soutiens d'AMAP qui m'ont dit « Nous, Banco, on peut t'accueillir ». Et donc, à partir de là, j'étais en direct avec le public, quelques restaurateurs qui avaient le souci de valoriser la ressource locale et de redonner ses lettres de noblesse à des poissons qui étaient négligés. Je pense à Christophe Hay, notamment, qui maintenant, dans son restaurant étoilé, ne travaille plus que le poisson de Loire. Merci à lui, mais il n'est pas le seul. Je savais que j'avais une activité de pêche avec des produits abondants tels que le silure et le mulet, qui n'avaient pas une forte valeur marchande, qui étaient extrêmement fragiles. Et il me fallait, pour pouvoir vivre de cette activité de pêche, limiter au maximum le nombre d'intermédiaires et ajouter le maximum de valeur ajoutée. Alors, sous deux formes essentiellement, le garum et le fumé. Une autre forme étant la valorisation sous forme d'acra ou de kefta que je peux valoriser directement sur les festivals. Sachant que dans la ressource, on peut également faire du cuir avec les silures, puisqu'on enlève le plus souvent les filets, qui représentent à peu près un tiers du poids du poisson. Mais il y a quand même les deux tiers qui sont négligés. Alors, des collègues en font autre chose, mais la forme que moi j'ai choisi de faire, c'est cette valorisation par la lactofermentation. À partir de là, effectivement, le marché n'est pas un marché local, c'est un marché directement national, voire international, puisque on est sollicité par l'étranger. Il y a beaucoup de curiosité avant que ça se développe.
Considérez-vous votre travail comme écologique ?
Le but, c'est de donner sens à mon activité, que la nourriture, c'est quand même primordial pour mes semblables aussi, que j'aime que les choses aient du sens et du goût, que j'aime prendre plaisir aussi à ce que je fais et à le partager. Donc, c'est pas tellement écologique, ça me semble humain, on va dire plutôt humaniste. Et par contre, effectivement, c'est en rupture avec des pratiques précédentes.
Et alors, le mode d'emploi pour faire un bon garum ?
Alors, il faut respecter deux choses. Le temps, les produits. Les produits, c'est le poisson et le sel. Et le temps, c'est-à-dire agencer les produits de manière à ce qu'ils se transforment correctement. Ne pas vouloir aller trop vite et ne pas vouloir jouer d'artifice en ajoutant telle ou telle substance qui va activer le processus. Non. Il faut trouver le bon contenant, et là je pense qu'il y a encore des progrès à faire, mais surtout il faut que les produits soient sains et se faire confiance et faire confiance à la nature pour que les phénomènes se passent bien. Et j'ai rarement eu de surprise.
La saveur du garum ?
Alors ça dépend des poissons, ça dépend aussi du taux de filet, de muscles qui restent dans le garum, des assemblages que je peux faire, des périodes de mise en macération, plutôt l'été ou plutôt l'hiver. C'est caractéristique du goût umami. On est là sur une période de caractérisation du goût avec un collègue spécialiste de ces questions-là pour qu'on se crée un référentiel de goût parce que j'ai différents garums, ils sont pas les mêmes. Et lorsqu'on parle de puissance, de profondeur, etc., je ne fais référence qu'à mes goûts et j'avoue que c'est franchement limité, quoi.
Finalement, avec quelle recette pourrait-on marier le garum ?
Alors, il faut se faire confiance, faut oser, faut y aller. Bon, moi je suis un peu addict, j'en ai partout. J'en ai mis dans une salade, j'ai fait une brandade de silure et silure fumée au garum, j'ai fait une purée de kaki au garum, j'ai fait, alors, c'est pas moi qui ai osé, mais le fromage de chèvre demi-sec avec une goutte de garum. Ça a été essayé pendant une présentation dans un club œnologique. Et effectivement, plus de la majorité des gens ont été convaincus. Vous avez un gosse, il a du mal à prendre de la soupe. Mettez deux gouttes de garum, il va en prendre deux fois. Ça va pas parfumer avec un goût de poisson. Ça va exploser les goûts de chacun des aliments que vous allez employer.
Nous allons maintenant accueillir Yvan Driano, archéozoologue spécialisé dans l'étude des poissons, l'ichtyologie. Alors, c'est quoi le garum en archéologie ?
Ce que l'on retrouve sur les sites archéologiques, ce sont les restes de poissons, les usines de fabrication du garum, également les contenants qui permettent de transporter ce produit. Donc ça peut être aussi bien des amphores, des tonneaux et des usines de salaison. Le garum, c'est un terme générique sur les sauces de poissons. Le principe de fabrication du garum, c'est la décomposition du poisson dans un milieu aseptisé, donc avec du sel, qui permet d'extraire un jus. Donc les chairs de poisson sont fermentées pendant un certain temps pour obtenir un premier jus qui est soutiré, qui peut ensuite être ressaumuré pour avoir un deuxième, un troisième jus, et qui donne des sauces différentes. Ce que l'on retrouve généralement dans les usines de fabrication de ces salaisons, ce sont les résidus. Donc c'est tous les restes de poissons qui ont été décomposés. Donc il n'y a plus de chair, il n'y a plus que les os qui sont conservés. Et on ne retrouve pas non plus le sel, parce que depuis 1000, 2000 ans, tout ça a disparu. Donc, ce que l'on peut retrouver, c'est sur les parois de ces cuves de fabrication, parce que généralement, elles sont fabriquées dans des cuves, des caramels, qui correspondent aux graisses du poisson qui sont dissoutes par les subgastriques des poissons qui permettent ensuite de faire la fermentation. Il existe garum, mais il y a le liquamen, il y a l'alec et la moria. Ce sont trois termes qui correspondent à des stades de fabrication du garum et avec parfois des différences en fonction de ce qu'on rajoute. Donc c'est un peu comme un vin. Généralement, c'est 2-3 mois de fermentation. Parfois, ça peut être une fabrication qui dure sur 10-12 mois. Et donc là, le taux d'affinage n'est pas le même. Et du coup, le goût doit s'en ressentir. La lec correspondrait plus à une purée de poisson. Et la muria correspondrait plus à un bouillon.
Et comment c'était distribué alors ?
Alors, c'est surtout à l'Antiquité que se développe la fabrication de garum. Grâce au transport, on peut retracer les grands chemins de circulation. Donc déjà, il y a tout le bassin méditerranéen. Et c'est sur les amphores où on retrouve les inscriptions qu'elles ont contenues du vin, du vinaigre, mais aussi du garum. Avec leur lieu de production, il y a quelques sites majeurs où on a retrouvé de ce type d'amphores. Donc ça peut être sur des épaves, mais aussi sur d'autres sites archéologiques, par exemple Pompéi, où il y a eu plusieurs dizaines d'amphores qui ont été retrouvées, avec des restes de poissons dedans, avec les inscriptions dessus, disant que c'est du garum, telle préparation de garum. La provenance également, ainsi que le nom du fabricant. Grâce à ça, on peut restituer les chemins de circulation. C'est sur toutes les provinces romaines qu'on retrouve ce produit. Donc aussi bien en mer Noire, en la Méditerranée, en mer Baltique, sur la Manche, en Angleterre, en Espagne, au Portugal. Enfin voilà, on le retrouve aussi bien dans les terres que sur les côtes. C'est une denrée très commune et exploitée par toutes les classes de la population, avec des privilèges parfois plus pour l'élite et pour la basse classe, des sauces de moins bonne qualité. Il y a des écrits qui disent qu'un propriétaire d'esclaves a donné de la purée de poisson, donc de la lec, à ses esclaves pour pas qu'ils meurent de faim. Voilà, donc ça peut être également la nourriture principale pour certains.
Et il y avait des espèces privilégiées ?
Généralement, c'est des poissons comme le thon, le maquereau, les chinchards. Donc c'est essentiellement des poissons marins, des poissons gras. Dans les recettes écrites, il est mention justement de fabrication de garum à partir de maquereau, de thon. Donc ça, c'est plus dans le bassin méditerranéen. Et plus sur nos côtes, côte atlantique, c'est généralement des clupéidés, donc des sardines ou des harengs, qui sont utilisés. D'autres hypothèses, en fait, c'est des recettes différentes avec des mollusques, par exemple des huîtres, qui ont été mentionnées sur des écrits également. Par contre, on ne retrouve pas ce genre de restes archéologiques.
Alors, ok pour les recettes, mais le garum à l'époque, c'était plutôt avec du sucré ou du salé ?
A priori, ils le mettaient à toutes les sauces, hein, je pense. Voilà, et ça allait aussi bien avec du salé que du sucré, aussi bien avec de l'animal que du végétal. Ça accompagnait quasiment tous leurs plats. Bon, à la période où c'était très commun d'avoir du garum.
Merci pour vos réponses, Monsieur Driano. Nous remercions également la participation de Thierry Bouvet, dont vous pouvez retrouver les produits sur le site garumdetour.fr. On s'aperçoit grâce à vous que le garum est un exemple intelligent d'exploitation des produits de la pêche et d'humilité face aux ressources naturelles. S'il est souvent comparé au nyokman, son équivalent asiatique, le garum entretient une relation particulière avec notre propre culture, dans laquelle il est lui aussi, comme le dit Jacques André dans le livre « L'alimentation et la cuisine de Rome », le condiment obligatoire de toute cuisine un peu raffinée. Cet épisode vous a été présenté par les étudiants du Master Culture et Patrimoine de l'Alimentation de l'Université de Tours, réalisé par Laurine Gobert, Julie Marcos et Sébastien Vega. Les musiques utilisées sont celles de Gérard Calvi, composées en 1967 pour Astérix le Gaulois, et Waiting for Muffin, composées par The Fisherman.
Merci aux étudiants de Master 1 de l'Université de Tours, Master culture et patrimoine de l'alimentation pour ce podcast Le Temps d'un Café. Il y a 3 épisodes. Chers auditeurs, je vous invite évidemment à aller les écouter sur notre site radiocampustour.com. Et pour terminer et en beauté cette émission La Méridienne, écoutons une chronique de la bibliothèque municipale, oui, puisque nous avons la chance d'avoir régulièrement des chroniques par toute une équipe fantastique de médiathécaires qui nous parle de BD, de musique, de romans, de nouvelles et de bien d'autres choses. Et aujourd'hui, nous allons écouter une chronique BD sur une BD Les Oiseaux à retrouver chez Futuropolis. C'est une BD de Troops. Je vous souhaite à tous une excellente journée à l'écoute de nos non moins excellents programmes.
Oui, bonjour. Alors, c'est la bibliothèque municipale de Tours sur Radio Campus Tours. Et moi, mon truc, c'est la BD. Donc, tout à l'heure, je vous parlerai de BD.
Aujourd'hui, sur Radio Campus Tours, on fait escale à la bibliothèque de Tours.
Excusez-moi, je dis que des bêtises. Non, mais bien les yeux de Mélissa que je dis que des bêtises.
Des BD, des mangas, en vois-tu, en voilà, à la bibliothèque municipale de Tours, sur Radio Campus Tours.
.com. Je voudrais parler de Popeye. Bonjour les amis. C'est la bibliothèque municipale de Tours. Donc on continue, on enchaîne avec l'écologie ou la protection de la nature, ou je ne sais plus trop ce que ça veut dire, écologie en même temps. Donc en tous les cas, on a un auteur de bande dessinée qui s'appelle Troubs et qui, d'une façon très simple, nous en parle très très bien à travers sa dernière bande dessinée qui s'appelle Les Oiseaux. Et pour que ce soit plus simple et que je ne dise pas trop de bêtises, je vais vous lire le 4e de couverture. En France, les oiseaux disparaissent de nos campagnes, alors qu'au Liban, malgré les guerres et les destructions, la nature arrive à s'adapter et même parfois à reprendre ses droits. Mais pour combien de temps ? Pour ce voyage philosophique et écologique entre la Dordogne et Beyrouth, Troubs dialogue avec les tourterelles et les passereaux. Ça, c'est un peu le résumé. Et après, c'est Alain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue pour la protection des oiseaux, qui nous dit de Troubs. Donc, Troubs n'est pas un dessinateur comme les autres, il est également voyageur. Ses vagabondages sont autant de moissons qui enrichissent ses bandes dessinées, toujours empreintes de sensibilité et d'humanisme. Naturellement, la fragilité de la planète ne lui a pas échappé. Et je suis heureux que, après une bonne vingtaine de livres, il se soit investi dans le monde des oiseaux. Son héros, en quête d'un arbre à qui parler, possède le privilège de pouvoir dialoguer avec les oiseaux. S'engage alors une saga dont je vous laisse découvrir l'intimité. En nous entraînant dans son cheminement, Troubs éveille notre conscience. Son talent favorise merveilleusement le respect de la biodiversité. Qu'il en soit sincèrement remercié. Donc bien sûr, comme il s'agit d'une bande dessinée, c'est mieux de pouvoir voir les dessins et les planches. Donc vous pouvez venir à la bibliothèque de Tours, non pas pour le feuilleter, mais pour l'emprunter. Alors dans ce livre, justement, on parle de chardonneret, parce qu'on a quelques collègues qui confondent chardonnay et chardonneret. Mais c'est vrai en plus. Mélissa, pourquoi tu dis rien ? Qu'est-ce que tu penses de ces planches,
parce que
Mélissa ?
Je pense qu'il y a peut-être des gens que ça va effrayer, l'idée du voyage philosophique.
Bah, philosophique, c'est un grand mot, hein, aujourd'hui. Enfin bon, bref. Non, mais par contre, il y a un truc effectivement qui n'est pas très cool par rapport aux chardonnerets. Parce que ces oiseaux, il semblerait qu'ils sont, pas en voie de disparition, mais qu'ils sont un peu maltraités parce qu'ils sont capturés pour les vendre, parce qu'ils chantent très très bien. Donc, un extrait de la BD. Le chardonneret est un oiseau partiellement migrateur. Il se déplace en fonction des conditions climatiques. On le trouve en Europe et tout autour de la Méditerranée. Les mâles sont de grands chanteurs et c'est pour cela qu'on les met en cage dans les pays qu'ils fréquentent. En France, où ils étaient, comme s'il n'y en avait qu'un, donc très commun, il y a quelques années, sa population ne cesse de chuter. Il est devenu l'oiseau le plus braconné et fait aujourd'hui partie des espèces en danger. Son prix atteint des centaines d'euros au marché noir. Au Maghreb, il a quasiment disparu. Au Moyen-Orient, avec la succession sans fin des conflits, il est devenu encore plus rare. Alors bien sûr, son prix est monté en flèche. Beyrouth est le centre principal de ce trafic international. On y vend même des œufs en incubateur. Le business du chardonnay génère beaucoup d'argent. Les seuls oiseaux qui arrivent à prospérer ici sont ces petites tourterelles maillées qui viennent d'Afrique de l'Ouest. On va voir aussi des beaux rouges-gorges. Ces belles tourterelles, des corneilles, enfin différents oiseaux migrateurs donc, qui font des milliers de kilomètres. Et ça, c'est toujours aussi merveilleux de pouvoir se dire que les oiseaux voyagent beaucoup plus que nous finalement. Et que malheureusement, il y en a qui sont braconnés et vendus à des prix d'or pour pouvoir les écouter chanter chez soi, pour soi. Et...
J'ai l'impression qu'il y a un contraste entre le dessin des paysages et les personnages et les oiseaux. Le trait a l'air très rond sur sur les personnages, sur le visage des personnages. Et là, on a quelque chose, alors pas de réaliste, mais qui quand même qui contraste vraiment avec les dessins des paysages. Mmh.
C'est vrai, mais du coup, je trouve que ça donne d'autant plus de charme. C'est simple comme dessin, mais je trouve que c'est beau. Après, c'est chacun son point de vue, comme sur le chant du Chardonneret. Ou le chant que nous procure le Chardonnay.
Est-ce qu'il a fait d'autres BD intéressantes, le Troubs ?
Alors, la BD précédente, c'est Mon voisin Raymond, parce qu'en fait, il habite en campagne. Je crois que c'est du côté de la Dordogne, je ne suis pas tout à fait sûre, enfin, dans ces coins-là. Et son voisin Raymond, eh ben, parce que Troubs, il est né dans les années 60-70, je ne sais pas trop. Et son voisin, il a peut-être justement, lui, dans les 70 ans. Il en approche, donc c'est un paysan, il a toujours été paysan. Ils sont très potes tous les deux, donc ils se voient un peu tous les jours. Et s'il a besoin d'un coup de main, le monsieur, pour rentrer son bois ou couper son bois ou je sais pas quoi, bah, il va boire un petit café chez lui. Il parle tout simplement de la nature. Donc l'auteur, c'est Troubs, et le titre, c'est tout simplement Les oiseaux, avec une jolie couverture quand même. Hein.
Oui, une jolie couverture, et c'est chez qui ?
C'est Futuropolis.
Merci.